Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, une affaire de plus dans l'Église de France. Le pape accepte la démission de l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit. Il l'avait présenté la semaine dernière après un article faisant état d'une relation avec une femme il y a une dizaine d'années. Deux cas de Covid version Omicron dans l'Hexagone, Seine-et-Marne et Haut-Rhin. La cinquième vague de Covid version Delta continue de prendre de l'ampleur. Après d'autres, l'hôpital de Strasbourg déclenche le plan blanc pour annuler des opérations non urgentes. Inquiétude des traiteurs face aux annulations avant les fêtes. Et sur les marchés alimentaires, masque obligatoire désormais, même en extérieur. Qui seront les deux finalistes de la primaire chez les LR? Réponse dans un peu plus d'une heure, clôture du vote à 14h. De son côté, Marine Le Pen prend le contre-pied d'Emmanuel Macron. Il a supprimé les SF. Elle propose l'impôt sur la fortune financière. On vous explique. Emmanuel Macron à Strasbourg, hommage à Giscard un an après sa mort. À 13h30, notre invité sera Michel Zecler. Il y a un an, les images de ce producteur de musique se faisant tabasser par des policiers avaient créé choc et scandale. Un an plus tard, il revient sur cet épisode dans un livre et raconte sa vie très mouvementée entre passage en prison et pages d'histoire du rap. Le livre s'appelle « Rester debout », 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique « Réagir pour dialoguer » avec Michel Zecler. Dans le 13-14 également, Nicolas Hulot, nouvel article accusateur dans Paris Match. Question « Qui savait chez les écolos ?» Hulot clame son innocence face aux accusations d'agression sexuelle. Comment réduire l'absentéisme des enseignants? Rapport sévère de la Cour des comptes, les deux tiers des heures perdues en cours sont dues à des obligations de service. Le vif de l'histoire, 2 décembre, Jean Lebrun revient sur le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte et dans C'est une chanson avec Frédéric Pommier et son invité, nous écouterons du Renault. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
La décision a été prise très vite la semaine dernière. L'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, présenter sa démission au pape après la publication d'informations dans l'hebdomadaire Le Point, selon lesquelles il avait entretenu une relation avec une femme en 2012. La démission est acceptée. Bonjour Olivier Tosri.
Bonjour.
Olivier, vous êtes en direct de Rome. Le Vatican a annoncé accepter cette démission il y a moins d'une heure.
Oui, le pape ne badine pas avec la discipline ecclésiastique et le célibat des prêtres ne se négocie pas, Monseigneur. Georges Pontier, archevêque émérite de Marseille, assure à l'intérim après la démission acceptée de Monseigneur Aupetit, qui a exercé ses fonctions depuis 2017. Fin novembre, vous l'avez dit, le prélat avait remis sa démission suite à des accusations d'une relation intime avec une femme, ce qu'il a catégoriquement démenti. J'ai bien sûr été fortement troublé par les attaques dont j'ai été l'objet, a réagi l'intéressé dans un communiqué. Je demande pardon à ceux que j'aurais pu blesser. Cette démission intervient après plusieurs jours de crise qui ne concerne pas uniquement la vie privée de Monseigneur Aupetit. La publication dans la presse le 23 novembre dernier d'un long article sur sa gestion du diocèse de Paris l'avait déjà mis en difficulté. Le diocèse qui possède une centaine d'immeubles cachés dont la valeur totale est estimée à près de 700 millions d'euros. Si la fortune de ce patrimoine est considérable, elle n'apparaît ni dans les comptes du diocèse, ni dans les revenus qu'il génère. La vie privée et la gestion du diocèse de Paris auront donc coûté son poste à Monseigneur Aupetit.
Olivier Tesseri en direct de Rome avec nous, sachant que le pape est dans l'avion direction Chypre notamment. Et alors que le Vatican a donc annoncé avoir accepté cette démission, l'archevêque de Paris, Rémi Brancato, a publié un communiqué. Quels en sont les termes, Rémi?
Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. C'est cette phrase de l'Ancien Testament du livre de Job qui ouvre cette déclaration de Michel Aupetit, une page et demie. Il s'y dit heureux d'avoir servi le diocèse. Il semble aussi régler ses comptes, rappelant qu'il a été, je cite, troublé par les attaques dont il a été l'objet et dit prier pour ceux qui peut-être lui ont souhaité du mal. Le désormais ex-archevêque de Paris demande enfin pardon à ceux qu'il a pu blesser. Cette démission, on le disait, intervient après la révélation par l'hebdomadaire Le Point il y a 10 jours de ce mail envoyé par erreur à sa secrétaire en 2012. Michel Aupetit était alors vicaire général du diocèse et le mail était destiné à une femme. 3 jours après cet article, Monseigneur Aupetit écrit donc au pape pour lui présenter sa démission dans un contexte de tension dans son diocèse. D'une part, les traditionalistes lui reprochent une application trop stricte de la consigne du pape de réduire l'usage de la messe en latin. De l'autre, un conflit ouvert avec les laïcs qui géraient le centre Saint-Merry, une communauté venant en aide aux migrants et aux personnes LGBT dans le centre de la capitale. capitale. Le pape a donc agi vite, en une semaine, et c'est l'archevêque émérite de Marseille, Georges Pontier, ancien président de la Conférence des évêques de France, qui est nommé administrateur apostolique pour gérer le diocèse.
Et dans le contexte aussi, Olivier le disait, les révélations de France Inter selon lesquelles le diocèse de Paris dispose de près de 700 millions d'euros de biens immobiliers qui n'apparaissent pas dans les comptes. Bonjour Jean-Marie Guénois.
Bonjour.
Spécialiste des questions religieuses au Figaro. On note la rapidité de la décision du pape. Comment l'interprétez-vous, Jean-Marie Guénois ?
Très étonnant, effectivement, à moins d'une semaine de l'arrivée de la lettre de Mgr Petit à Rome, le pape prend cette décision. Personnellement, j'attendais plutôt autour de Noël ou après Noël, parce que le pape prend toujours le temps sur ce genre de sujet de rencontrer l'intéressé, de faire sa propre enquête. Là, la décision est quasiment immédiate, on peut le dire. Elle signifie que ce qui a pu la motiver est tout de même en partie plausible. Hein. C'est difficile aujourd'hui pour y voir clair, mais ouais. Une telle rapidité montre que le pape François n'aime pas ce genre de sujet. Il y a une autre raison pour laquelle il est allé aussi vite. En général, l'Église catholique, quand il y a un scandale, même s'il n'est pas justifié, dès qu'il y a un scandale public, en général, prend une décision rapide. Deux mots pour finir sur ce point. Monseigneur Aupetit dit dans sa lettre que la suspicion, je le cite, à la perte de confiance, l'empêche effectivement de continuer à exercer sa charge.
Alors, il y a ces informations de presse du Point selon lesquelles il avait entretenu une liaison avec une femme, et puis nos deux correspondants et Rémi Brancato et Olivier Tosseri nous le disaient, il y a tout un contexte dans le diocèse de Paris. C'est aussi un archevêque qui avait du mal à tenir son diocèse, Jean-Marie Guénois. C'est aussi ça qu'il paye, entre guillemets.
Je dirais pas ça. C'est quelqu'un qui était assez tranché, assez direct. Justement, il n'avait pas été médecin pour rien pendant plus d'une dizaine d'années. Il n'avait pas ce langage onctueux, diplomatique, parfois du monde ecclésiastique. Donc il s'est fâché avec beaucoup de monde. Il s'est fâché avec sa gauche, on vient de l'entendre pour Saint-Méry. Il s'est fâché avec sa droite, avec la question de la messe, l'ancien rite. Il s'est fâché avec son centre sur le dossier de l'école Saint-Jean de Passy. Et puis il y a aussi la question de Notre-Dame de Paris. Il y a aussi beaucoup de gens qui lui reprochaient de laisser aller une rénovation trop moderniste de Notre-Dame de Paris. Donc on lui reproche ça. D'un autre côté, si vous interrogez les paroisses, les gens sur le terrain, il était aimé. C'était quelqu'un de très proche, d'assez direct encore une fois, mais c'est ce style peut-être qu'il paye également et qui s'ajoute effectivement au dossier plus ambigu sur ce passé et cette éventuelle relation qu'il a nié. Effectivement.
Encore deux questions, Jean-Marie Guénois, réponse rapide, s'il vous plaît. La rapidité de la réaction du Vatican comparée à la lenteur et au temps qu'il avait fallu, s'agissant du cardinal Barbarin, laisse penser pour le grand public qu'il est plus grave d'entretenir une liaison avec une femme que de couvrir des accusations d'abus sexuels. Qu'en dites-vous ?
Pas du tout. Pour Barbarin, le pape avait retenu la décision en respect de ce qu'il avait dit lui-même, de la présomption d'innocence, puisque le procès n'était pas terminé. Ouais. Mais dès que le procès était terminé, la décision est arrivée très vite.
Et autre question, quelle année pour l'Église de France ? On a une année totalement déstabilisée, le rapport Sauvé, la démission de l'archevêque de Paris. Est-ce que l'avenir de l'Église de France est menacé ?
Pas menacé, mais jamais depuis une trentaine d'années, l'Église de France n'a été à ce point troublée, déstabilisée. C'est aussi le ferment d'un renouveau à venir. Il y a une jeune génération qui se prépare, mais on n'a jamais vu un tel bouleversement si peu de temps.
Merci Jean-Marie Guénois, spécialiste des questions religieuses au Figaro, d'avoir pris quelques minutes pour répondre aux questions de France Inter. Le porte-parole du gouvernement parlait hier de 13 cas suspects de Covid version Omicron. Il y a désormais des cas confirmés en France. Un premier avait été annoncé à La Réunion. Et aujourd'hui, donc, Véronique Julia, deux nouveaux cas dans le Haut-Rhin. Est d'abord annoncé plus tôt ce matin en Seine-et-Marne.
Oui, premier cas en Seine-et-Marne. Ce quinquagénaire n'était pas vacciné. On l'a testé à sa descente d'avion jeudi dernier. C'était le 25 novembre. Il revenait du Nigeria, mais pas directement. Il a fait escale. Son avion était en provenance du Royaume-Uni. C'est ce que nous précise l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Et c'est un test aléatoire qui a permis de découvrir cette contamination. Test positif puis séquençage. Il s'agit bien d'Omicron. En revanche, c'est un cas asymptomatique. L'homme et sa femme également testés positifs, également non vaccinés ont été aussitôt placés à l'isolement chez eux en Seine-et-Marne. Le séquençage du test de l'épouse a pris un peu plus de temps. Il est en cours. Aujourd'hui, deux choses préoccupent les autorités sanitaires. D'abord, on recherche les contacts à risque qu'ils auraient pu avoir dans l'avion, leurs voisins de siège par exemple. À cause d'un mauvais numéro de portable, on n'a pas pu tracer les contacts tout de suite. Ensuite, une troisième personne habite avec ce couple en Seine-et-Marne. Elle n'est pas vaccinée non plus et ne s'est pas isolée à leur retour. Elle a été testée ce matin et isolée, bien sûr. On attend les résultats. L'ARS est en train d'éplucher tous ses contacts et tous les lieux qu'elle a pu fréquenter la semaine passée, en espérant d'abord qu'elle soit négative, ensuite qu'elle n'ait pas Omicron.
Et plus tard dans la matinée, Véronique, un autre cas a été confirmé dans le Haut-Rhin.
Oui, dans le Haut-Rhin, c'est une femme d'une quarantaine d'années qui avait cette fois un schéma vaccinal complet. Elle a été testée positive au retour d'un voyage en Afrique du Sud et placée à l'isolement aussitôt. Peu de contacts à risque apparemment et peu d'informations encore.
Pour le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy, c'est en début d'année prochaine, fin janvier, début février, que le variant Omicron devrait s'installer en France. Au-delà de ce variant, ce qui inquiète en France, c'est la cinquième vague de Delta. Près de 50 000 nouveaux cas hier, 10 558 personnes à l'hôpital et une série d'hôpitaux repasse au plan blanc pour annuler les opérations non urgentes. C'est le cas à Laval, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Épicentre de la première vague. Le virus circule beaucoup dans l'est de la France. Dans beaucoup de départements, l'incidence y est supérieure à 250, voire 400. Parmi les mesures de restriction supplémentaires depuis hier, le masque est obligatoire sur tous les marchés, y compris en extérieur. Est-ce qu'elle est respectée, cette règle? Est-ce qu'elle suscite des réticences? Reportage de William Gay-Costa à Paris 16e.
Anne, qui porte des lunettes, attend son tour devant l'étal d'une poissonnerie. Tout le monde dans la file porte son masque et ça la rassure.
Je suis en sécurité quand je vois que tout le monde a un masque. Nous, on ne l'a jamais posé. Quand on se promène, on a toujours un masque. Ça gêne parce qu'on a plein de buée sur les vitres. Bah, je l'accepte. Hein. J'aime mieux avoir de la buée que être en réanimation. Hein.
Et le retour du masque obligatoire sur les marchés en extérieur, alors qu'il ne l'était pas il y a quelques jours, ne gêne pas non plus Muriel.
Moi, je pense qu'il faut s'adapter en fonction du risque et que quand même le plus grand risque, c'est le confinement complet comme on a connu, et ça surtout pas. Quoi. Vous savez, on va au spectacle, on met aussi son masque, hein. C'est pas pareil, mais on le fait pour le plaisir d'eux.
Derrière ces barquettes de produits orientaux, Kassim, un commerçant, voit aussi le retour du masque d'un bon œil, lui qui ne l'a pas quitté depuis le début de la crise sanitaire.
Ça nous protège, ça protège la nourriture, et malgré le désagrément du masque, pour moi c'est que positif.
Et si l'immense majorité des passants ont un masque sur le visage, certains comme Philippe n'en portent pas.
Parce que je me sens pas en danger, et je ne savais pas que c'était obligatoire. Maintenant je vais le porter.
Pour d'autres, ne pas en porter, c'est volontaire, comme pour Mathieu, un vendeur de vêtements.
Parce que je trouve que c'est de la connerie. On enlève, on le remet, maintenant on va se balader avec trois masques. Moi j'ai le Covid en mars. Voilà, une petite grippe de jour, c'est passé. Hein.
Mais il en garde un malgré tout dans sa poche pour vite l'enfiler en cas de contrôle.
Autre mesure prise cette fois par la SNCF, la société ferroviaire demande aux passagers de ne pas consommer dans le wagon-bar pour éviter l'agglomération de personnes qui enlèvent le masque dans ces wagons. Plus de 8 millions de personnes ont reçu une dose de rappel selon Santé publique France. Pour essayer de résorber les embouteillages dans les pharmacies notamment, le ministre de la Santé promet une majoration financière pour les pharmaciens qui vaccinent le week-end. Majoration aussi pour les infirmières qui piquent à domicile. Car la rétribution est aussi un enjeu de cette campagne vaccinale. Les médecins coordonnateurs en EHPAD, les maisons de retraite, sont appelés à ne plus vacciner. Dès aujourd'hui, le personnel soignant, appel lancé par deux syndicats de la profession. Selon leurs représentants, l'acte n'est pas couvert dans leur contrat de travail ni valorisé par le gouvernement. Les médecins coordonnateurs n'ont pas touché l'augmentation de 183 euros net accordée par le Ségur de la Santé. Écoutez, sur ce point, le docteur Renaud Marin le mêlé.
Dès décembre 2020, nous avons attiré l'attention sur le fait que parmi les soignants d'EHPAD, seuls les médecins coordonnateurs n'avaient pas été concernés par les mesures Ségur. Nous avons refait une conférence de presse en février. Nous avons republié un communiqué au mois de juillet en indiquant que si le gouvernement persistait à établir une iniquité entre les soignants d'EHPAD, eh bien nous passerions à l'action. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Lors des premières et deuxièmes doses, effectivement, nous avons vacciné non seulement les résidents, surveillé pendant 15 minutes chaque personne vaccinée, puis les soignants, puis les familles des résidents. Voilà, ce sont des actes que nous avons faits parfaitement en dehors de nos missions, en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas de difficultés, qu'il n'y ait pas de mauvaises réactions et que nous ne soyons pas traînés devant les tribunaux pour avoir exercé une activité qui n'est pas couverte par notre contrat de travail.
Le docteur Renaud Marin l'a mêlé avec Marion Ferrer. Noël n'est pas en danger si nous faisons tous attention, dit le président du conseil scientifique, le professeur Delfraissy, qui s'est prononcé hier contre la vaccination obligatoire. Une série de professions, cela dit, pour qui la période est cruciale, s'inquiète tout de même. C'est le cas des traiteurs. Ils enregistrent des annulations de cocktails, réceptions, repas de fin d'année. Cela après deux années déjà compliquées. Illustration en Normandie, Raphaël Aubry, France Bleu Cotentin.
Erwan Quignot n'a pas le sourire. Il dirige une petite entreprise de traiteurs à cœur de revue.
Nous, on commence à avoir des annulations des entreprises sur les gros repas d'entreprise. On a peur d'avoir un petit cluster sur ce genre de réception.
Comme pour cette société qui vient d'annuler un gros repas pour 300 personnes. Un trou dans la trésorerie, ça devait être 25% du chiffre de ce traiteur ce mois-ci.
Ça dure depuis longtemps. On est toujours dans l'angoisse, on croit que ça va mieux et puis finalement non, ça va pas mieux. Et puis on essaye de garder le moral, mais au bout d'un an et demi, deux ans, ça commence à être compliqué à gérer.
Compliqué parce qu'en plus, Erwan Quignot se retrouve avec de la marchandise sur les bras.
Des commandes de viande chez des fournisseurs, il faut qu'on prenne un peu d'avance pour être sûr d'avoir les grandes quantités. Une fois que c'est lancé et que vous êtes livré, le fournisseur ne reprend pas la viande fraîche.
Sur la côte ouest, Yannick Lamy, lui, est traiteur au pieu. Sur son planning, pas de gros changements.
Ça peut s'expliquer par le fait que c'est pas forcément des grosses prestations, que 80 en cocktail, ça reste pas non plus c'est pas monstrueux.
Mais ce chef navigue dans le flou, surtout qu'il vient d'embaucher. Alors si les annulations continuent, il n'exclut pas le chômage partiel.
En fait, plus on va devoir repasser par là, mais bon, la source n'est pas intarissable, donc c'est dommageable et pour les salariés, et pour l'État, et pour nous.
Et le nouveau variant Omicron ne devrait pas arranger les affaires de ces traiteurs.
Un reportage Raphaël Aubry, France Bleu Cotentin. Pour lutter contre le Covid, un vaccin supplémentaire sera-t-il disponible en Europe dans les mois à venir? L'Agence européenne du médicament lance un examen accéléré du produit du franco-autrichien Valneva. Un accord de précommande jusqu'à 60 millions de doses a déjà été conclu avec l'Union européenne.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
Ils sont 5 candidats encore. Très vite, ils ne seront plus que 2. On parle de la primaire chez les LR. Anne Souhaitement, vous êtes rue de Vaugirard au siège du Parti Les Républicains à Paris. Si tout se passe bien, Anne, résultat du premier tour dans un peu plus d'une heure.
Oui, Bruno, les adhérents ont jusqu'à 14h pour voter, puis l'urne électronique sera ouverte en présence d'un représentant de chacun des 5 candidats et les résultats annoncés dans la foulée lors d'une conférence de presse du patron du parti à 14h30, Christian Jacob, qui aura précédemment appelé les 5 candidats évidemment. Alors vous l'imaginez, après une campagne marathon, beaucoup de fébrilité dans les équipes en ce moment, c'est très ouvert, impossible de faire le moindre pronostic. Ici, devant le siège des Républicains, pas beaucoup de monde, hein. Quelques électeurs qui n'ont pas réussi à voter sur Internet, quelques cadres du parti, des journalistes, mais pas de candidats. On annonce dans un café à une centaine de mètres, d'ici quelques minutes, l'équipe d'Éric Ciotti. Ce que l'on sait, Bruno, c'est que la participation est plutôt bonne, 73,6% à 10h. On nous dit que la barre des 110 000 votants a été dépassée. À qui cela peut-il profiter? Question à 1000 euros, me disait le soutien d'un candidat à l'instant. L'après-midi s'annonce mouvementé, un entre-deux tours très bref, puisque les deux qualifiés auront jusqu'à minuit pour faire campagne, les éliminer pour se rallier ou donner une consigne de vote. Le deuxième tour commencera demain, 8h, Bruno.
Merci Anne Souhaitement, 110 000 votants, donc sur 140 000 en tout. Et le nom du candidat LR à la présidentielle doit être connu samedi en début d'après-midi. Les LR sont donc en train de désigner leur candidat au Rassemblement National. C'est fait depuis longtemps. Et Marine Le Pen soigne son profil d'opposante numéro 1 à Emmanuel Macron. Statut remis en cause depuis l'échec relatif aux régionales et départementales et la montée dans les sondages d'Éric Zemmour. La candidate lance aujourd'hui une proposition qui prend directement le contre-pied d'une des réformes marquantes de ce quinquennat, c'est l'impôt sur la fortune financière. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
De quoi s'agit-il?
Alors il s'agirait de remplacer l'actuel impôt sur la fortune immobilière par un impôt, vous l'avez dit, sur la fortune financière. Même taux et même seuil que l'ancienne ISF, mais qui exonérerait la résidence principale, ainsi que ce que la candidate appelle la résidence unique. Exemple, si vous êtes locataire à Paris et que vous avez acheté une petite maison en province pour vos week-ends ou votre retraite. La condition, c'est uniquement de ne pas la louer. L'idée, c'est donc de punir la spéculation, une mesure qui, selon Marine Le Pen, rapporterait 3,4 milliards contre environ 2 milliards pour le système actuel, une estimation que l'économiste Marc Touati juge excessive.
À chaque fois qu'on a augmenté les impôts, finalement, eh bien, ça réduit l'activité économique, ça réduit ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Donc, on va ponctionner plus mais sur un gâteau plus petit. C'est-à-dire, par exemple, là, dans le cas présent, si on dit, voilà, on va imposer davantage la fortune financière, ben, certains Français qui aujourd'hui restent en France vont aller investir à l'étranger.
Des chiffres à prendre donc avec des pincettes, mais pour Marine Le Pen, l'important est ailleurs. Alors qu'elle tente de réinstaurer, vous l'avez dit, le duel face à Emmanuel Macron, il s'agit de proposer une mesure qui les oppose presque philosophiquement, favoriser l'enracinement, c'est le mot qu'elle emploie, et protéger les classes moyennes face à celui qu'elle compte bien continuer à présenter comme le président des riches.
Voilà, pour la droite et l'extrême droite, Emmanuel Macron, lui, soigne son profil centriste. Il prononce un discours devant le Parlement européen, un an exactement après la mort de Valéry Giscard d'Estaing. À Strasbourg, les députés rendent hommage à l'ancien président français et Emmanuel Macron a voulu s'associer à ce salut à la mémoire d'un grand Européen. Il en profite pour donner sa vision de l'Europe, lui qui prendra la présidence tournante de l'Union européenne en janvier.
L'incertitude grandissante du monde est un plaidoyer de plus pour une Europe plus forte. Suivant la voie tracée par Valéry Giscard d'Estaing, nous prendrons le chemin d'une Europe soudée, consciente que sa force réside dans la solidarité, une Europe sans naïveté, capable de fortifier ses fondements et de se projeter vers l'avant. Oui, il a voulu et aimé cette Europe, car il a vécu ses divisions et ses guerres. C'est pourquoi le travail qui nous reste, si nous voulons être fidèles à cet héritage, est immense. Continuer d'avancer pour une Europe plus forte, cette Europe qui protège, cette Europe plus souveraine, comme il l'écrivait lui-même. Il s'agit bien de bâtir là l'une des grandes civilisations du 21e siècle.
Propos recueillis par Simon Le Baron. Après Strasbourg, le président s'envole pour le Golfe Persique. À partir de demain, les Émirats Arabes, puis le Qatar et l'Arabie Saoudite. Il rencontrera les trois hommes forts de la région. Le prince héritier d'Abu Dhabi, l'émir du Qatar et le prince saoudien Mohamed Ben Salman, l'homme qui avait ordonné le meurtre dans des conditions très violentes du journaliste Jamal Khashoggi il y a 3 ans, Christian Chesneau.
La rencontre aura lieu à Jeddah, sur les bords de la mer Rouge. Elle a été confirmée par l'Elysée. Avec l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi par les services saoudiens, les relations s'étaient refroidies entre Emmanuel Macron et le prince héritier Mohamed Ben Salman, dit MBS. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Certes, dans l'entourage du président, on réaffirme l'exigence de vérité et de justice. On se défend de vouloir remettre en selle MBS, qui a pourtant donné l'ordre de liquider Jamal Khashoggi, comme l'a révélé la CIA. Mais pour l'Elysée, on souligne surtout que l'Arabie est un acteur majeur de la région, où les crises sont nombreuses, qu'il s'agisse du Yémen, de l'Iran ou encore de la résurgence de Daesh en Irak. Et donc, il n'y a pas d'autre voie que d'entretenir un dialogue exigeant avec des gens qui comptent et avec lesquels on se doit de travailler, indique-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Sa visite dans le Royaume est aussi l'occasion de donner un coup de fouet au business entre la France et l'Arabie. Un forum des investissements est d'ailleurs prévu en parallèle de la rencontre entre Emmanuel Macron et MBS, qui sera un moment de pure réelle politique, quitte à mettre en sourdine l'affaire Khashoggi. Dubaï, Christian Chesneau, France Inter.
Emmanuel Macron entre Strasbourg et le Golfe. Hier à Paris, à propos des accusations de viol et agression sexuelle contre son ancien ministre Nicolas Hulot, le chef de l'État a plaidé pour un « en même temps » très macronien. Ni opacité, ni inquisition, il faut accompagner la libération de la parole. Un nouveau long article est consacré à Nicolas Hulot aujourd'hui dans l'hebdomadaire Paris Match. Rappelons que la semaine dernière, dans le magazine de France 2, envoyé spécial, 3 femmes l'accusaient de viol et agression sexuelle. Fait prescrit que Nicolas Hulot dément très vigoureusement. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Le fil rouge de l'article de Match aujourd'hui, en ce début de campagne électorale, c'est qui savait chez les écolos?
Et la vraie question, c'est même qui savait quoi? On n'a pas forcément fait la différence entre ce qu'on a appelé pendant des années de la drague insistante et des attitudes qui relèvent du harcèlement ou du viol, explique un cadre du parti. L'article de Paris Match, dit-il, n'apporte pas de véritable révélation, mais il montre bien que la plupart des collaboratrices avaient appris à se méfier. C'est vrai qu'il était quand même lourdingue avec les femmes et qu'il n'a jamais été un modèle de fidélité, lance l'un de ses très proches soutiens, qui nuance tout de suite son propos. Je le connais depuis des années, je ne peux pas imaginer qu'il y ait eu quelque chose de violent chez Nicolas Hulot. Quant au supposé concours avec Patrick Poivre d'Arvor, avec un nombre de points attribués par catégorie de femmes, serveuses, hôtesses de l'air, c'est une allégation invraisemblable, dit-il. La porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, elle, rappelle la cellule d'écoute mise en place en 2017 dans le cadre de l'affaire Baupin, les sanctions prévues dans le règlement intérieur du parti et appelle le reste des protagonistes à témoigner, les collaborateurs du gouvernement, à l'époque où Nicolas Hulot était ministre, les collaborateurs consommateurs de TF1. Et elle conclut, si les affaires de harcèlement commencent à sortir dans l'ensemble des partis politiques, attendez-vous à avoir envie de castration chimique pour tous les hommes de la planète.
Et Yannick Jadot, le candidat écologiste à la présidentielle, égrène ses propositions à propos du logement aujourd'hui, et notamment la proposition d'une assurance universelle sur les loyers que devrait contracter chaque propriétaire pour sécuriser les bailleurs et éviter que le risque d'impayé repose sur le seul locataire. Près de 10% des heures d'enseignement au collège et au lycée sont perdues à cause de l'absentéisme. Et les deux tiers des absences sont liées à des obligations de service, formation, réunion pédagogique, jury d'examen. C'est le constat que dresse la Cour des comptes qui a étudié l'année scolaire 2018-2019 avant le Covid. Les heures perdues avaient alors augmenté d'un quart par rapport à l'année précédente. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Comment améliorer les choses? Ce qui pose problème pour la Cour des comptes, ce sont les absences de courte durée au collège et au lycée.
Oui, ces absences de moins de 15 jours sont peu remplacées, 20% seulement. Parmi les solutions, la Cour des comptes propose de planifier les formations ou les réunions sur des demi-journées où les enseignants n'ont pas leurs élèves pour éviter de perdre trop d'heures de cours, ou encore de demander aux professeurs d'effectuer des heures de remplacement. Une mesure difficilement applicable selon Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN, le syndicat des chefs d'établissement.
On n'a aujourd'hui pas possibilité de l'imposer à des enseignants qui font déjà un nombre d'heures supplémentaires supérieur aux années précédentes. Ils sont impliqués dans d'autres tâches, de devoirs faits, des missions de référent. Donc c'est vrai qu'ils sont parfois très sollicités sur un temps de service habituel et ils ne sont pas forcément volontaires pour faire ces remplacements de courte durée.
Mais pour le représentant des principaux et des proviseurs, ce sont désormais les absences longues de plus de 15 jours qui posent problème et la situation s'est aggravée depuis la rentrée.
En ce moment, même à plus de 15 jours, on est en incapacité de remplacer les enseignants. L'institution est en difficulté sur cette question, à la fois sur les remplacements longs, mais même sur certains postes qui sont restés vacants ou qui restent vacants des semaines et des semaines. On a un problème de vivier, on a peut-être également un problème de moyens pour assurer au niveau des rectorats ces remplacements de longue durée. Donc on a une problématique majeure qui, à mon sens, est bien plus importante à traiter que celui des remplacements de courte durée.
Le manque d'attractivité du métier d'enseignant, les démissions plus nombreuses cette année amplifient ces difficultés de remplacement qui étaient déjà importantes avant la crise sanitaire.
Les grandes organisations sportives sont bien souvent réticentes à se mêler de politique. Le geste de la WTA, la Fédération de tennis féminin, n'en est que plus notable. Elle suspend les tournois en Chine et à Hong Kong jusqu'à nouvel ordre. Façon de prendre la défense de la joueuse Peng Shuai et de mettre la pression sur Pékin. Le sort réservé à la joueuse par le régime chinois suscite les plus grandes inquiétudes depuis qu'elle a accusé un ancien haut responsable chinois d'agression sexuelle. Alors quelle est la réponse à Pékin? Correspondante de France Inter, Dominique André.
La réponse du gouvernement chinois est sans surprise. Elle est la même que pour les menaces de boycott des JO d'hiver de Pékin. « Nous sommes fermement opposés à toute politisation du sport », a déclaré un porte-parole de la diplomatie chinoise. À deux mois des JO d'hiver, la position très ferme de l'instance du tennis féminin a une portée sans précédent, saluée par les stars mondiales du tennis qui soutiennent le courage de la WTA et les principes avant les dollars, a dit Martina Navratilova, l'une des plus titrées. Bousculé, le CIO révèle aujourd'hui avoir eu un deuxième entretien vidéo avec Peng Shuai, dit partager la même inquiétude pour elle, mais défend son approche humaine face aux accusations de complaisance avec la Chine. L'association de tennis féminin a organisé 10 tournois par an en Chine avant le Covid. Avec plus de 26 millions d'euros de dotation, c'est l'un de ses plus gros marchés. Mais c'est sans comparaison avec la NBA, la Ligue américaine de basket, très populaire ici, qui avait perdu plus de 170 millions d'euros après un tweet en 2019 en soutien aux manifestations de Hong Kong. Pékin, Dominique André, France Inter.
Et parmi les sportifs qui applaudissent la décision de la WTA, le numéro 1 mondial chez les hommes, Novak Djokovic. Dans un instant, la météo.
Chaque matin sur France 3, Outre-mer le Mag propose de l'évasion, de la gourmandise et de belles rencontres. Laurence Roustanji et Brice-Laurent Dubois nous emmènent en Outre-mer à la découverte du patrimoine, de la gastronomie et des ultramarins qui partagent leurs passions et leurs projets. Outre-mer le Mag, du lundi au vendredi à 10h55 sur France 3.
La Carac se bat pour moi. La Carac est une mutuelle d'épargne solide et engagée qui défend mes intérêts. Sur la plupart des produits d'épargne, la Carac ne prend aucun frais sur mes versements. 0%. En faisant le choix d'investissement responsable, la Carac donne du sens à mon épargne. Et mon conseiller expert Carac est toujours à mon écoute. Voilà pourquoi je suis à la Carac.
Retrouvez les conditions d'adhésion sur carac.fr. Carac, engagé pour l'avenir de votre patrimoine. Mutuelle soumise au livre 2 du Code de la Mutualité.
Le temps de ce jour.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Le temps est changeant et il est plus froid.
Oui, alors on a quand même du soleil autour de la Méditerranée avec du vent jusqu'à 80 km à l'heure. Et puis ailleurs, c'est vrai, le ciel est plus variable avec des averses, parfois sous forme de neige dans l'est, jusqu'en plaine entre les Ardennes et le plateau Lorrain, vers 300 à 400 mètres en montagne, un peu plus haut sur les Pyrénées, vers 800 mètres. C'est plus sec sur la Normandie, l'ouest des Hauts-de-France et la région parisienne avec de belles éclaircies. C'est le cas aussi des Charentes et du Limousin vers les plaines du sud-ouest. Puis en effet, il fait plus froid qu'hier, hein, 2 à 5 degrés à l'est, 5 à 10 à l'ouest, jusqu'à 14 autour de la Méditerranée. Demain, on a de nouvelles pluies qui vont balayer le pays. Attention, puisqu'en arrivant sur les sols froids, on pourrait avoir un petit peu de neige ou de pluie et neige mêlée, alors du bassin parisien au nord le matin, puis sur le nord-est, et puis un petit peu de pluie verglaçante également vers le Limousin ou le Massif central.
Merci Elodie Calac, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
C'était il y a à peine plus d'un an, le site Loopsider publiait les images d'un homme se faisant casser la figure par plusieurs policiers dans son studio du 17e arrondissement. On apprend bien vite qu'il s'agit du producteur de rap Michel Zecler. Un an après, la justice ne s'est pas encore prononcée. Les quatre policiers mis en examen pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique restent suspendus. L'enquête judiciaire continue. Quant à Michel Zecler, il publie aux éditions Plomb un récit intitulé « Restez debout ». Qui va bien au-delà de cet épisode, même s'il en est longuement question. Récit d'une vie, la dérive d'un ado dans une banlieue difficile, 7 années en prison, une page brillante de l'histoire du rap aussi. Et cette confession, il y a en moi une vraie ambivalence, une partie de moi est revendicatrice de mon identité, ma couleur de peau, mes origines. Une autre éprouve le désir de se fondre dans une société sans couleur, dualité que je n'arrive pas à réconcilier. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions sur ce témoignage et ce parcours. Bonjour Michel Zecler.
Bonjour, bonjour.
21 novembre 2020, qu'est-ce qu'il en reste?
Il en reste ces images qui tournent tout le temps dès qu'on parle de cette date.
Oui.
Il n'en reste que j'ai voulu écrire un livre pour justement ne pas laisser que les gens puissent comprendre qui était la personne que, ouais. Ma personne. Voilà.
Il en reste une blessure physique toujours, même si ça va mieux, le bras très abîmé. Et il en reste surtout une blessure psychologique. Le physique s'arrange, le psychologique c'est plus compliqué.
C'est un petit peu plus long effectivement, et avec l'aide de spécialistes, j'arrive à aller de l'avant.
Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui s'est passé il y a un an, ou toujours pas?
C'est pas évident de comprendre des réactions qui ne sont pas logiques ou naturelles.
Vous racontez comment ça s'est passé. Tout d'un coup, vous sentez des mains vous tirer vers l'intérieur du studio, puis les coups qui pleuvent. Alors vous dites, voilà, j'avais pas de masque. On était déjà au moment du confinement. On parle de forte odeur de cannabis. On trouvera 1 demi-gramme. Mais il y a tout d'un coup ces mains qui vous tirent et ces coups qui pleuvent, qui pleuvent, qui pleuvent. Sans que vous compreniez.
Oui, alors déjà je voudrais revenir sur quelque chose, que c'est vrai que ça m'agace un petit peu qu'on parle justement de cette odeur de cannabis, ouais. Parce que c'est venu au bout de leur troisième déposition,
ouais.
Une fois que les vidéos sont sorties, donc une fois que leurs mensonges sont mis au grand jour,
ouais.
Parce que ce jour-là, je sais ce qu'a été ma journée, et je peux vous assurer qu'aucune odeur n'émanait de ma personne. Et puis il faut savoir aussi que c'était la même période. Il faisait froid.
Cas, de toute façon, ça ne justifierait ce qui s'est passé.
Bien sûr, c'était la conclusion.
Alors, vous racontez cet épisode à la fois au début et à la fin de votre livre. À la fin, il y a notamment l'attitude de l'officier de police judiciaire, du médecin à l'unité médico-judiciaire à l'hôtel Dieu. Autant de gens qui cherchent à minimiser les faits. Les policiers qui essayent de récupérer le portable, qui essayent de récupérer votre pull qui est taché de sang, où vraiment tout a été fait pour effacer les traces. Et vous dites, s'il n'y avait pas eu cette caméra de vidéosurveillance, on ne m'aurait jamais cru.
Bien sûr. Et j'ai essayé de détailler dans ce livre le plus que possible ce qui s'était passé, parce que je trouve que les UMJ, par exemple, les unités médicaux judiciaires est un rouage important.
Oui.
C'est un maillon important dans cette chaîne-là. Et si je n'avais pas de vidéo, il ne m'aurait resté que le certificat des UMJ pour pouvoir justifier mon agression.
Certificat qui était ultra laconique et qui minimisait
sûr,
les faits.
Bien sûr, bien sûr. Et je trouve que c'est extrêmement grave. Parce que comment voulez-vous que la justice puisse statuer sur une agression si un jour de différence d'interruption temporaire de travail sépare l'agresseur et l'agressé?
Et d'ailleurs, vous avez écrit à l'ordre des médecins qui vous a pas répondu.
Maintenant, je crois qu'une décision a été prise, mais ça a été classé sans suite. Voilà, ça n'ira pas plus loin.
Vous attendez quoi de l'enquête et d'un éventuel procès?
Écoutez, moi j'attends. Moi, je respecte la justice et j'attends que la justice puisse se prononcer. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses sont plutôt assez claires au vu des vidéos. Je vois des fois certains syndicats de police qui appuient un petit peu sur des choses inexistantes. Mais c'est un procédé que j'ai compris que c'était le procédé, c'est-à-dire que certaines personnes ont accès à nos données personnelles et peuvent à tout moment les divulguer. C'est arrivé dans le passé. Même des fois, ça concerne même pas les victimes de violences elles-mêmes, mais tout est fait pour pouvoir asseoir la victime sur le banc des accusés.
Alors, votre cas, il a alimenté le débat récurrent sur la police. Est-ce que ces actes de violence policière relèvent de l'exception, des mauvais éléments, ou est-ce qu'il y a quelque chose de systématique? Vous dites quoi, vous, Michel Zecler?
Non, moi, ce que je dis, c'est que face au racisme, je trouve qu'il y a trop la police est trop permissive face au racisme.
Okay.
C'est ce que je trouve. Maintenant, des histoires comme ça, on en entend beaucoup. Beaucoup trop à mon goût et très peu d'images. Et même quand il y a des images, je vois comment c'est traité. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a un problème et qu'il faut effectivement en parler.
À propos du racisme, au-delà de la police, il y a un détail qui est entre guillemets amusant dans votre récit. Vous êtes de peau noire, vous appelez Michel.
Oui.
Et que ce soit pour chercher un job ou dans d'autres circonstances de la vie, quand on appelle au téléphone, bonjour, je m'appelle Michel. Ah mais super, venez. Et quand vous venez, c'est plus compliqué.
Oui, j'ai plus l'apparence de Mamadou.
Ouais.
Je le dis en anecdote comme ça parce que je trouve que dans toute la durée de vie d'un homme ou de la mienne, de toute façon, c'est quelque chose auquel j'ai été confronté très souvent, trop souvent même peut-être.
Alors à propos de cette couleur de peau, je voudrais revenir sur ces lignes qui viennent très vite dans le livre. Il y a en moi une ambivalence, une partie de moi revendicatrice de mon identité, ma couleur, mes origines, une autre désir de se fondre dans une société sans couleur. Vous en êtes toute cette ambivalence là aujourd'hui?
Écoutez, moi j'ai toujours les mêmes amis. Ils ne sont pas catégorisés en fonction de leur couleur de peau. Ça ne m'a jamais posé de problème.
Oui.
Ça pose des problèmes à certaines personnes qui sont souvent en face de nous et moi je n'arrive pas à trouver de réponse à ça vu que pour moi ce n'est pas logique. Je n'arrive pas à comprendre.
Alors, ce livre, c'est un récit de votre vie, celle d'un enfant qui connaît quasiment pas son père, connaît quasiment rien de son père, élevé par votre mère à Bagneux, d'un ado qui dérive aussi jusqu'à faire 7 ans de prison pour vol à main armée. Vous dites, je n'en tire aucune gloire, j'ai perdu les 7 plus belles années de ma vie. Est-ce que vous avez compris aujourd'hui à quel moment vous basculez? Et qu'est-ce qui vous fait basculer?
Vous savez, on parle d'une histoire qui date de plus de 20 ans. J'étais un gamin. Mes idées n'étaient pas encore construites. Je ne savais pas trop où j'allais. J'avais envie de m'en sortir. Mmh. Et des fois, on prend un chemin au lieu d'en prendre un autre. Et puis tout part en cacahuète.
Tel que vous le racontez, il y a une mauvaise rencontre.
Oui.
Besoin d'argent et quelqu'un qui vous dit j'ai un plan. D'abord on vole des Clio et puis c'est de plus en plus grave. C'est ça l'engrenage.
Ça peut être ça. Ça peut être autre chose, mais ça fait partie de cet engrenage-là.
Alors vous racontez les années de prison. Vous dites il en reste la discrétion. Je suis resté après ces années quelqu'un de discret.
Après, je raconte aussi beaucoup de choses.
Ah, mais on va en parler des autres choses, parce qu'il y a une page d'histoire du rap passionnante. Mm. Mais voilà, vous êtes un grand gaillard costaud qui a une place dans le monde du rap, et vous dites, il reste de ça la discrétion.
Oui, bah parce que c'est pas quelque chose que je souhaite valoriser. Et que moi, pour moi, ce qu'il faut valoriser, c'est les études, c'est les longues études, c'est le travail sur soi, c'est l'apprentissage, muscler ses connaissances,
ouais.
C'est son cerveau, ouais. C'est très important.
Alors on en vient au rap. Il y a deux personnes qui vous aident quand ça va pas du tout. Il y a Diams,
ouais.
Qui vous écrit pour vos 20 ans. Vous êtes en cellule, elle vous envoie 20 lettres. Et il y a Anne-Valérie Atlan, qui est une des personnes clés dans l'émergence du rap en France et qui est toujours à vos côtés. C'est presque un miroir. Quand on parlait des policiers, on se dit mais pourquoi s'est-il fait tabasser comme ça ? Quand on voit Anne-Valérie Atlan, on se dit mais pourquoi est-ce qu'elle est toujours là, elle, toujours fidèle ? Est-ce que vous avez la réponse à ça ?
Vous savez, moi, mon associé, je crois que des fois il y a des gens comme ça qui sont faits pour se rencontrer,
ouais.
et on a besoin d'avoir des fois cette aura qui nous emmène ailleurs, qui, ouais. nous montre autre chose. Et pour moi, Valérie a été cette personne-là. Donc elle m'a montré autre chose, quelque chose que, en plus de ça, j'appréciais déjà dès le début. Je, ouais. raconte dans le livre que bizarrement, parce que je rappais moi aussi à l'époque,
ouais.
Lorsque j'ai sorti ma première mixtape, par exemple, c'est une mixtape, c'est les CD indépendants.
Ouais.
Et ben, elle l'avait chroniqué alors que elle dirigeait déjà un gros magazine hip-hop très connu.
Ouais.
Donc, en vérité, tout au long de ma carrière, avant d'être associé avec elle, déjà, on avait quelque part cette ligne. On était déjà sur ce même chemin, sur cette même route.
Votre histoire, c'est amicalement vôtre, dites-vous. Elle, famille juive algérienne élevée dans le 16e. On se souvient du générique d'Amicalement Vôtre qui défilait. La découverte du rap, ça se passe dans un bus scolaire. Qu'est-ce qui se passe au moment où le chauffeur de bus met à la radio ce groupe de rap belge ?
Bah écoutez, il y a quelque chose de différent qui se passe. Et puis après c'est une ambiance. Et puis surtout après j'ai été découvert d'autres choses. Et j'entendais des gens qui évoquaient des choses que nous vivions. Donc c'est ce mélange là où on commence à appartenir à quelque chose, à un groupe. Et on a l'impression de tous se comprendre sans se parler, ouais. juste en écoutant de la musique, donc c'est très fort. Et puis après, ça m'a guidé tout le reste de ma vie, parce que la musique m'a suivi tout au long de ma vie.
Et Diams ?
Diam, c'était une rencontre par le biais de d'un ami. C'est encore la musique qui nous a fait nous rencontrer. Et puis c'était une très belle rencontre parce que c'était une rencontre artistique. Et vu que j'appréciais beaucoup ce qu'elle faisait, j'étais même admiratif moi de son talent. Je le suis toujours d'ailleurs. Et donc moi je continuais à chanter, à rapper à ses côtés. Et puis après, elle est devenue la grande artiste que tout le monde connaît aujourd'hui.
Alors,
je suis très fier.
Ça décolle votre activité avec Valérie Atlan après une rencontre avec La Fouine. Il y a quelque chose de frappant parce que ça raconte vraiment l'émergence, un peu plus que ça, du rap français. Ça se joue sur trois fois rien. C'est-à-dire que La Fouine, au début, c'est vous organisez un concert avec lui, c'est vraiment pas gagné. Ça joue sur un rapport, comment dire, sur les mots-clés que elle s'est prononcée en bon moment, et bim, ça décolle. Ça raconte vraiment quelque chose du rap au moment où c'était à la fois le début et où l'argent arrivait.
Ouais. Oui, c'est vrai que La Fouine, c'est aussi quelque chose de très artistique.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, je connaissais pas du tout cet artiste-là, et quand je découvre son album, parce qu'on faisait, on produisait des émissions indépendantes avec Valérie, j'ai écouté cet album qui était aller-retour à l'époque, qui m'a mis une grosse claque artistique,
ouais.
Après l'avoir vu sur scène, honnêtement, on est artistiquement tombé amoureux,
ouais.
et on s'est dit que c'est pas normal que il y a pas assez de gens qui connaissent cet artiste-là qui est complet finalement.
Et vous mouillez la chemise, elle, oui. prend de gros risques financiers et ça passe. Ça raconte aussi comment Bagneux a joué un rôle clé dans l'émergence du rap en France. Et puis comme ça marche, ben vous passez de Bagneux à un bureau à côté de Boulogne, puis le fameux studio du 17e arrondissement. Et vous racontez un épisode récent. Vous avez maintenant une vie entre la banlieue et les beaux quartiers, en fait, où vous êtes installé. Et un jour, vous retournez à Bagneux et un gamin du quartier vous dit « Tu parles bizarrement ».
Oui, parce qu'on a, on a ce en fait, c'est à ce moment-là que je comprends un peu plus que même le langage est des mains, on parle avec les mains, ou tout est différent et au final quand on ne connaît pas, ça peut même limite faire peur.
Et vous mesurez comme cela à quel point vous avez changé aussi le parcours.
Je dis pas changé, je dis évolué finalement.
Évoluer, c'est noté. Un dernier mot, je le disais, vous savez presque rien de votre papa, sauf son métier.
Oui, je l'ai appris en écrivant ce livre, en me renseignant, parce que c'est ce livre qui m'a donné envie d'aller découvrir un petit peu plus dans mon parcours, dans mon passé, ce que j'avais jamais fait avant. Ouais. J'ai posé plusieurs questions à ma mère, à ma famille, et puis j'ai appris ce qu'il faisait comme métier.
Et alors ?
Ben, il était policier.
Et alors ?
Et alors, il était policier.
C'est ironique.
Ouais.
Merci Michel Zecler d'être venu au micro de France Inter. Restez debout, c'est publié chez Plomb. Bonne journée à vous, il est 13h44.
France Inter, le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Louis-Napoléon Bonaparte au programme aujourd'hui.
2 décembre 1851, jour funeste.
Le coup d'État, vous nous raconterez cela avant. Il y aura le feuilleton avec nos jeunes femmes qui souffrent de trisomie grâce à Hélène Chevalier. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Ce sera demain la journée internationale des personnes handicapées. Vous avez rencontré Anne-Sarah Kertudo. Elle a fondé l'association Droit Pluriel qui travaille à rendre le droit, la justice accessible à tous, quel que soit le handicap. Elle-même est aveugle. Et sourde.
Mais elle ne l'a pas toujours été, et comme elle est appareillée aux oreilles, elle entend. Et hormis le fait qu'elle doit se déplacer avec une canne, Anne-Sarah Kertudo mène une vie normale. Elle est mère de famille, juriste, scénariste, autrice, réalisatrice de documentaires. Et c'est d'une chanson de Renaud qu'elle a choisi de me parler.
Moi, j'ai grandi avec Renaud, qui était le père de substitution, le copain, l'amoureux, qui était tout. Lui, il était tout le monde pour moi, et moi j'étais toute seule, et j'étais dans ma chambre, recroquevillée, en pleurant. J'avais pas d'amis, mais j'avais Renaud. Il avait tous les mots pour dire ce que moi je ressentais, en souffrance, en solitude, en colère, en révolte. Je me suis accrochée à lui, quoi.
Vous étiez en colère contre quoi, à cette époque-là ?
J'étais en colère parce que j'étais très malvoyante, avec une bizarrerie, on va dire, aux yeux. Donc on se moquait beaucoup, beaucoup de moi à l'école. Et puis après, je suis devenue malentendante au collège. Donc là, je répondais pas quand on me parlait. J'étais encore plus différente et encore plus bizarre. Donc j'étais vraiment ce qu'on appelle maintenant les victimes de harcèlement scolaire. Et donc très en colère, parce que je trouvais pas ça du tout normal.
Monsieur le Président, je vous fais une bafouille que vous lirez sûrement si vous avez des couilles. Je viens de recevoir un coup de fil de mes vieux pour me prévenir que les gendarmes s'étaient pointés chez eux. J'ose pas imaginer ce que leur a dit mon père, lui, les flics, les curés et puis les militaires. Les a vraiment dans le nez, peut-être encore plus que moi. Dès qu'il peut en bouffer, le vieil anard, il se gêne pas. Le vieil anard, il se gêne pas. Alors il paraît qu'on me cherche, que la France a besoin de moi. C'est con, je suis en Ardèche, il fait beau, tu le crois pas. Je suis là avec des potes, des écolos marrants. On a une vieille bicoque, on la retape tranquillement. On fait pousser les chèvres, on fabrique des bijoux. On peut pas dire qu'on se crève, le travail c'est pas pour nous. On a des plantations, pas énormes, 3 hectares. D'une herbe qui rend moins con, non c'est pas du Ricard. Non c'est pas du Ricard.
Et c'est donc le titre « Déserteur » qu'on entend, Frédéric, paru dans l'album « Morgane de toi » de Renaud en 83.
Une variation sur « Le déserteur » de Boris Vian. Le langage est un petit peu plus fleuri. Mais cette chanson reste une ode au pacifisme et à l'adolescence. Elle a beaucoup, beaucoup compté pour Anne-Sarah Kertudo.
Parce qu'elle était la consécration du non. Elle était le droit de s'opposer, elle était le droit de contester, elle était le droit de dire « je suis pas d'accord ». Et donc c'était à la fois... l'expression de toute la colère, et en même temps, c'était sur une musique très douce et très sentimentale et très poétique. Ça se finit sur une scène d'amitié à la campagne, donc c'était tout ce à quoi j'aspirais. Donc il y avait tout dedans, il y avait tout.
Elle vous consolait, cette chanson ?
Ah ouais, elle me consolait, ouais. Alors elle me rendait triste, et puis elle me consolait, comme souvent ce qui console, c'est-à-dire qu'il faut d'abord provoquer les larmes pour pouvoir les essuyer.
Et c'est une chanson que vous avez continué à écouter par la suite ?
Je l'ai écoutée en boucle, à l'adolescence, à partir de mes 10 ans, au collège, et puis après je l'ai retrouvée, bien des années après.
Et surtout, ce qui me déplaît, c'est que j'aime pas la guerre. Et qui c'est qui l'a fait ? Ben, c'est les militaires. Ils sont nuls, ils sont moches, et puis ils sont teigneux. Maintenant, je vais dire pourquoi je veux jamais être comme eux.
Je me retrouve au concert de Renaud à la Villette, avec ma fille, qui avait 10 ans. Et je m'aperçois qu'elle chante toutes les chansons à sa place, finalement, puisqu'il a plus beaucoup de voix et qu'elle, elle en a. Et du coup, je l'entends, elle, j'entends sa petite voix de petite fille de 10 ans chanter Le Déserteur. Et puis ça me rebouleverse comme ça m'avait bouleversé quand moi j'avais son âge, quoi.
Vous avez l'impression qu'il vous a un peu sauvé, Renaud, dans ces années-là ?
J'ai l'impression qu'il m'a accompagné, qu'il m'a permis de les traverser. Pour moi, il a été très moteur. Je suis militante aujourd'hui et je crois pas que j'aurais été sans lui. Enfin, peut-être pas.
Va pas t'imaginer, monsieur le président, que je suis manipulé par les rouges ou les blancs. Je ne suis qu'un militant du parti des oiseaux, des baleines, des enfants, de la terre et de l'eau. De la terre et de l'eau.
Déserteur de Renaud, c'était donc, Frédéric, le choix d'Anne-Sara Kertudo.
Formidable Anne-Sara Kertudo, la fondatrice de l'association Droit Pluriel, par ailleurs héroïne d'un roman, Anne-Sara K, de Mathieu Simonet, s'est publié au Seuil.
Je voulais te dire simplement que ce soir on fait des nouilles, à la ferme c'est le panard, si tu veux viens bouffer, on fumera un pétard et on pourra causer. On fumera un pétard et on pourra causer.
Le feuilleton autour de la maisonnée qui accueille ces 7 jeunes femmes atteintes de trisomie 21 en colocation de maîtresses de maison pour être à leur côté. Elles se relaient 7 jours sur 7. C'est une maison en pierre meulière au cœur de Viroflay. Le concept a été créé il y a plus de 10 ans par des parents qui ne voulaient pas mettre leurs filles dans des foyers pour personnes handicapées. C'est l'association Les Maisons Saint-Joseph. Et même si cette maisonnée est ouverte depuis un petit moment, l'inauguration officielle a eu lieu récemment avec les financeurs, les parents et en présence d'Hélène Chevalier.
Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux et c'est vraiment plein de joie qu'avec les résidentes, on vous accueille aujourd'hui. Or, il y a plein de personnalités. Est-ce que vous en avez reconnu les résidentes, vous avez reconnu les personnalités ? Des stars du showbiz ? Non. Des joueurs de foot ? Non. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui comptent pour nous. En tous les cas, qu'est-ce que vous avez à dire, vous ?
Merci !
Merci ! Voilà, bravo !
Alors, les filles, cette inauguration ?
Très bien.
Ouais ?
Moi, là, je veux que des macarons frais.
Ils sont bons, les macarons ?
Ah oui.
Moi, je suis Sophie Serrard, je suis administrateur des Maisons Saint-Joseph depuis 4 ans maintenant. La maison a été créée en 2007, avenue de Paris. Les parents se savent pas éternels et il faut qu'il y ait une structure pour pouvoir accueillir leurs enfants. C'est des structures de vie qui sont plus agréables à partager que de se retrouver dans un énorme ensemble où on est complètement impersonnel. Là, c'est vraiment familial comme ambiance. Elles ont des projets en week-end, hein. Elles vont se balader à Paris, elles vont au cinéma, elles vont...
L'idée, c'est aussi de les autonomiser, non ?
Elles ne pourraient pas être là si elles n'étaient pas autonomes. Dans la journée, il faut qu'elles se débrouillent. Elles sont le plus autonomes possible. La seule chose, c'est que dans la maison, c'est vrai qu'elles ne pourraient pas être complètement autonomes dans la maison. Il faut qu'il y ait quand même quelqu'un pour vous aider, pour faire la cuisine, les repas, vous dire quand vous devez vous coucher, comme dans une famille, j'allais dire. Moi, je suis plus dans la réflexion sur le long terme parce que c'est des adultes vieillissants et qu'on sait bien qu'à un moment, elles ne pourront plus être autonomes pour aller à la ruche, pour aller tout ça. Alors, est-ce que c'est nous qui allons créer une nouvelle structure encore ? Pourquoi pas ? Moi, j'aurais dans l'idée d'ouvrir en intergénérationnel, c'est-à-dire que, par exemple, on crée une maison comme celle-ci avec 7-8 personnes où il y a en même temps et des personnes âgées qui ne veulent pas quitter leur quartier. Et là, ça veut dire qu'on a des maîtresses de maison qui sont là toute la journée. Donc, c'est un autre projet à monter.
Je suis Marielle, donc je suis la maman d'Anthony qui est à la maison Saint-Jean-Paul II.
depuis bientôt 5 ans. Je fais partie du conseil d'administration des Maisons Saint-Joseph.
Et vous avez réfléchi depuis des années?
Ah oui, on a commencé en 2006. On s'est retrouvés avec deux familles, deux parents, qui cherchaient quelque chose pour leurs filles. Et quelque chose de pas institutionnel, c'est quelque chose pour que leurs filles gardent leur autonomie. C'est-à-dire faire leur repas. Là, vous voyez, elles sont vraiment chez elles. Elles ont la PL, enfin, elles louent leur chambre. Maintenant, c'est plus facile pour les gens qui ont des projets. À l'époque, nous, on a démarré comme ça. Hein. Et après, on nous a dit, non, il faut avoir une autorisation. Pour nos autres enfants étudiants, on n'aurait pas demandé l'autorisation de qui que ce soit pour réunir une coloc. Pour nous, c'est exactement le même esprit, en fait. Coloc de personnes ayant un handicap. Et au bout de 2 ans, ils ont visité. Ils sont venus un matin, à 9h du matin, pour fermer. Et quand ils ont vu, ils ont dit, non, mais on ne peut pas fermer. Comme ce sont des personnes dites fragiles, peut-être que la société se protège aussi, hein, et que du coup, il faut une autorisation. Alors, il y a 23 pièces à fournir, et après, ça s'est bien passé, ils nous l'ont donné, mais on a dit, on ne peut pas fermer en attendant d'avoir l'autorisation. Et là, on a l'autorisation pour 15 ans. Je pense que c'est vraiment le bon intermédiaire entre la vie familiale, qu'il faut bien quitter un jour, comme les autres, et l'institution plus formelle. L'autre jour, il nous a dit, hein, moi, plus partir en vacances avec vous. Hein. Plus de vacances de Pâques, plus de vacances de Toussaint. Moi, je reste là avec mes copains. Ça veut dire que ça y est, il est chez lui, en fait. Et le week-end, il préfère bien plus rester avec les copains que venir chez nous. Il a vu tous les autres partir. Et, là, et ben, moi aussi.
Le feuilleton, c'était le dernier épisode de ce feuilleton d'Hélène Chevalier réalisé par Lucie Lemarchand. Demain, le 13-14, est à Évry pour au Généthon pour vous parler du Téléthon et surtout de la recherche sur la thérapie génique qui avance très nettement et progresse beaucoup en ce moment. 13h55.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, c'était il y a 170 ans, 2 décembre 1851, le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon, le premier président de la République, élu au suffrage universel. Il ne peut, en vertu de la Constitution de 1848, exercer un second mandat. Il décide de rester au pouvoir.
Alors, le récit classique de ce coup d'État commence par la réunion, la veille au soir, des conjurés autour du président et le dernier ouvrage consacré au sujet, celui de Nicolas Chaudin, ne déroge pas à la règle. Première scène, donc, nous sommes à l'Élysée, que le président a choisi pour résidence. Louis-Napoléon n'entend pas le quitter, mais ses partisans sont trop peu nombreux à l'Assemblée pour imposer la révision constitutionnelle qu'il souhaite et qui aurait pu permettre sa réélection. Ce 1er décembre, c'est soir de réception au palais. Les salons ont bruissé de rumeurs autour d'une initiative que pourraient prendre les royalistes qui sont dominants à l'Assemblée. Une fois les invités partis, le président installé dans une pièce tendue de soie, parmes et argent, garde auprès de lui un petit groupe d'hommes en frac, ses affidés, qui sont prêts à l'appeler demain monseigneur, après-demain sire, parce qu'il prépare pour lui, à terme, le rétablissement de l'Empire. Ce sont des hommes d'opportunité plus que de conviction. Louis-Napoléon observe que le seul qui soit vraiment bonapartiste, c'est Persigny, mais ajoute-t-il, il est fou. Karl Marx dira joliment que ce commando travaille non pas de la tête, mais du chapeau. Le chapeau du vainqueur d'Austerlitz. Tiens, Austerlitz, un 2 décembre.
Alors, c'est peut-être un gang d'aventuriers, mais en même temps, on était dans une impasse politique. Il fallait peut-être donner un coup d'épaule, au moins.
Ah, je vois venir. Nicolas Chaudin accentue, en effet, le rapprochement avec aujourd'hui. Il écrit que le peuple a fait sécession d'avec la République qui est devenue conservatrice. La République a cruellement réprimé les révoltes du peuple. Elle en était même venue à amputer le suffrage universel. À peine instauré, celui-ci a été enlevé au plus pauvre en 1850. La ville multitude assénée tiers n'a pas à participer à la vie de la République. Résultat, selon Chaudin, les dépositaires de la puissance publique n'osent plus pénétrer dans les ghettos de la misère. Je me demande à quelle époque pense l'auteur quand il écrit ça. Louis-Napoléon aura beau jeu d'annoncer sa volonté de rétablir le suffrage universel en même temps qu'il suspendra le Parlement. Vous savez, le populaire choisit toujours l'autoritaire, dit-on.
Alors, le 2 décembre, le plan des conjurés se réalise assez facilement. Mais les jours qui suivent...
Le préfet de police Maupas dispose de moyens limités. Une soixantaine de subordonnés, peut-être, pour arrêter simultanément, au petit matin du 2, les ténors de l'Assemblée. Ensuite, il faut faire appel à la troupe pour disperser les quelques 200 députés qui se sont réunis dans une mairie d'arrondissement et qui ont proclamé la déchéance du chef de l'État. Le peuple ne s'est pas montré solidaire des institutions qui n'ont guère résisté et l'affaire semble plier le 2 au soir. Mais... Le 3, puis le 4, les barricades se multiplient. Face à pareille situation, 3 ans plus tôt, en 48, le vieux roi Louis-Philippe avait cédé. Mais notre gang de joueurs a tout jeté sur la table et n'a prévu pour lui nulle situation de repli. Ceux de ses membres qu'on nomme les Africains, parce qu'ils ont expérimenté les méthodes les pires dans la conquête de l'Algérie, vont faire appel à la terreur pour frapper les esprits. Le 4, une vraie tuerie fauche sur les boulevards, non seulement les rebelles, mais aussi les badauds qui se sont approchés trop près. Des dizaines de morts sur les trottoirs. Victor Hugo a perpétué le souvenir d'un enfant qu'il a vu sur les genoux de sa grand-mère désespérée. Tout ça, dit Victor Hugo, pour que Napoléon le Petit puisse aller le printemps prochain respirer les roses de son parc de Saint-Cloud. Un gang d'aventuriers, c'est pas un ordre de chevalerie.
Louis-Napoléon pensait n'avoir à procéder qu'à une simple opération de police un peu musclée.
Oui, mais voilà qu'une fois Paris maté, de nombreux lieux de province se soulèvent. Jusque dans l'Allier, la Saône-et-Loire, les Basses-Alpes, jusque dans des villages. Ces révoltes sont aucunement coordonnées, ce qui empêche leur extension, mais certaines semblent avoir déclenché une vraie panique chez les partisans de Louis-Napoléon Bonaparte. Le bilan, 1200 tués et blessés dans la capitale et dans l'ensemble de la France, quelques 10 000 exilés en Algérie et transportés en Guyane. Il y eut bien à la racine du Second Empire un péché, puisque présentant le plébiscite qui devait le justifier, Louis-Napoléon a demandé au peuple, écoutez bien ce mot, de l'absoudre.
Nicolas Chaudin, La nuit des aventuriers chez Plon, c'est ce livre qui a été utilisé entre autres pour cette chronique. Merci Jean Lebrun.